Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 4 août 2023. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia. Pour commencer, les titres. Au Niger, les putschistes dénoncent des accords militaires conclus avec la France et promettent de riposter immédiatement à toute agression de la CEDEAO. Le coup d'État au Niger pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour le monde, écrit le président Mohamed Bazoum dans une tribune parue jeudi soir dans le Washington Post. En Centrafrique, l'opposition qualifie de mascarade et d'échec cuisant le référendum sur le projet de nouvelle constitution. En RDC, la crise humanitaire empire dans trois provinces meurtries. L'ex-président américain Donald Trump plaide non coupable de complot contre les institutions après l'élection de 2020. Ne manquez pas notre page sport. Pour l'instant, le journal. Série de décisions hier soir des autorités issues du coup d'État du 26 juillet dernier au Niger. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a levé le couvre-feu instauré depuis une semaine et il a décidé de dénoncer les accords de défense qui lient le Niger et la France, sonnant ainsi la fin de la coopération militaire entre les deux pays. De Niamey, notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
C'est l'attitude désinvolte et la réaction de la France relativement à la situation actuelle que vit le Niger depuis le renversement du régime du président Mohamed Bazoum que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a mis en avant pour dénoncer ces accords. Ils sont au nombre de 5, le plus ancien date de 1977. Et est relatif à la coopération militaire et technique. Selon le communiqué lu par le colonel-major Amadou Abdraman, les préavis varient d'un à trois mois et les nouvelles autorités nigériennes envisage de saisir l'État français par voie diplomatique pour lui notifier cette dénonciation. Cette décision marque une étape cruciale dans les rapports entre la France et le Niger depuis le début de cette crise. En début d'après-midi de ce 3 août, des responsables de deux médias français, RFI et France 24, se sont indignés dans une lettre commune de la suspension de leur diffusion au Niger. Cette escalade survient alors qu'une délégation de la CEDEAO séjourne au Niger pour négocier une sortie de crise née du renversement du régime du président Mohamed Bazoum. La CEDEAO, qui, à défaut d'un dénouement pacifique, a prévenu de la possibilité d'une intervention militaire. À cette possibilité annoncée également, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a répondu hier soir « L'État du Niger ripostera immédiatement et sans préavis contre toute agression ou tentative d'agression », indique le communiqué, lui, à la télévision nationale. Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Le président déchu, Mohamed Bazoum, a lui déclaré dans une tribune publiée jeudi par le Washington Post qu'il était otage et a appelé les États-Unis et la communauté internationale dans son ensemble à rétablir l'ordre constitutionnel dans son pays. Selon M. Bazoum, si ce septième coup d'État en Afrique centrale et de l'Ouest depuis trois ans se concrétise, il aura des conséquences dévastatrices pour notre pays, notre région et le monde entier et pourrait faire passer la région du Sahel sous influence de la Russie via les mercenaires du groupe Wagner. Ce coup d'État lancé contre le gouvernement par une faction de l'armée n'a aucune justification, a-t-il ajouté dans la tribune. Les États-Unis ont affrété un avion pour évacuer leur personnel non essentiel du Niger et à bord duquel des citoyens américains souhaitant partir pourront prendre place selon des responsables du département d'État. Les précisions de John Linden.
L'avion décollera vendredi après-midi de Niamey si tout va bien, a indiqué à des journalistes jeudi un responsable sous couvert d'anonymat. Il a précisé que les services consulaires ont commencé à prendre contact avec les citoyens américains enregistrés pour connaître leurs intentions, évoquant plusieurs centaines de personnes. Mais nombreux sont ceux qui ne souhaitent pas partir, a-t-il ajouté. Les États-Unis ont d'autre part appelé à la libération du président Mohamed Bazoum et soutiennent les efforts de négociation menés par les pays de l'Afrique de l'Ouest dans le cadre de la CEDEAO qui ont donné jusqu'à dimanche à la junte pour revenir en arrière, n'excluant pas un recours à la force. Nous ne pensons pas que la junte a consolidé son pouvoir, a ajouté le responsable, soulignant par ailleurs que les sanctions de la CEDEAO commençaient à faire mal.
Au Mali, un convoi de l'armée malienne qui escortait des camions en direction du Niger voisin a été pris jeudi dans une embuscade par des djihadistes dans la localité de Assaïlal, à une vingtaine de kilomètres de Menaka, faisant craindre un lourd bilan, ont assuré à l'AFP un élu local et des sources militaires et policières. Nous sommes actuellement en train d'évaluer le bilan. Des terroristes de l'État islamique ont tendu jeudi une embuscade à des éléments de l'armée non loin de Menaka. Nos troupes se sont férocement défendues, affirme une source militaire malienne. Les Nations Unies se sont alarmées hier, jeudi, de la dégradation de la situation humanitaire dans trois provinces de l'Est de la République démocratique du Congo. Près de 3,3 millions de personnes ont été déplacées depuis mars 2022. Le point, Eric Manerakidza.
La situation humanitaire en Ituri, dans le nord Kivu et le sud Kivu, déjà catastrophique, s'est dégradée ces derniers mois, a déclaré la coordinatrice humanitaire par intérim en RDC pour l'ONU. Pour répondre aux besoins multiformes des personnes affectées par les violences dans ces trois provinces, les humanitaires ont besoin de 1,57 milliard de dollars, indique un communiqué. Dans ces provinces déchirées par des violences armées, les organisations humanitaires ont fourni une assistance à plus de 910 000 personnes ces six dernières semaines, ajoute le bureau onusien. Jusqu'à la fin de l'année, les Nations Unies, les ONG nationales et internationales ainsi que la Croix-Rouge prévoient d'apporter une aide d'urgence à près de 5 millions et demi de personnes, précise le communiqué. La RDC est secouée par des tensions politiques combinées à une crise sécuritaire et à des difficultés économiques. Les groupes armés sévissent dans une grande partie de l'est du pays depuis trois décennies.
Par ailleurs, selon des responsables locaux, une femme congolaise, la kidnappeuse présumée d'enfants, Ombeni Malekera a été arrêté jeudi et détenu à Bukavu dans l'est de la RDC où une fillette a été retrouvée mercredi au bord d'une rivière morte et mutilée, amputée de ses parties intimes et de sa langue. Les agents de l'ordre se sont interposés pour empêcher la population en colère de se venger. En République centrafricaine, l'opposition a qualifié jeudi de mascarade et d'échec cuisant le référendum constitutionnel de dimanche dernier qui devrait permettre au président Faustin Archange Touadéra de briguer un troisième mandat. Crépin Mboli Goumba, coordonnateur du BRDC, a parlé d'une faible participation de 10 à 13%. Au lendemain du vote, le vice-président de l'Assemblée nationale et porte-parole de la majorité présidentielle, Évariste Ngamana, avait lui parlé d'un taux de participation de 70% et d'un vote massif de 90% pour la nouvelle constitution. L'Afrique du Sud a déclaré jeudi que les dirigeants africains impliqués dans les négociations de paix sur l'Ukraine ont demandé le déblocage des exportations de céréales et d'engrais russes afin de relancer l'accord sur les exportations de céréales via la mer Noire, dont s'est retiré le mois dernier la Russie. Le groupe a également demandé aux Nations Unies de prendre des mesures pour débloquer 200 000 tonnes d'engrais russes bloquées dans les ports de l'Union européenne, selon le porte-parole du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Le retrait russe a entraîné une flambée des prix de céréales qui a durement touché les pays les plus pauvres.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici à Washington, l'ex-président Donald Trump a plaidé hier, jeudi, non coupable d'avoir orchestré un complot contre les institutions américaines après sa défaite à l'élection de 2020. Plus de 6 services de police ou agences de sécurité se sont mobilisés pour cette audience historique. Rosine Mounezero fait le point.
C'est la troisième fois depuis mars que le grand favori de la droite pour la présidentielle de 2024 était inculpé au pénal. Mais il est cette fois accusé d'avoir mis en danger le fondement même de la démocratie américaine en cherchant à faire dérailler le processus électoral. Une accusation fracassante et d'une gravité inédite contre un ex-président des États-Unis. Non coupable, a dit M. Trump, debout dans une salle de tribunal, après avoir attentivement écouté la juge fédérale à Washington, détaillant les charges et les peines maximales de prison qu'il encourt. L'austère procureur spécial Jack Smith, dont l'enquête de plusieurs mois vaut à Donald Trump cette nouvelle comparution, se trouvait également dans la salle d'audience. Ceci est la persécution d'un opposant politique, a plus tard lancé M. Trump, juste avant de reprendre l'avion pour le New Jersey. Il clame toujours que la présidentielle de 2020 lui a été volée et dénonce sans relâche une chasse aux sorcières à l'instigation de son successeur démocrate Joe Biden. Une prochaine audience devant déterminer la date du procès a été fixée au 28 août. Elle se tiendra sous l'autorité de la juge fédérale Tanya Chutkan, qui présidera les débats au procès. Jeudi, la défense a réclamé du temps pour étudier la masse de documents contenus dans le dossier, s'élevant contre la demande de procès rapide formulée mardi par Jack Smith.
Au moins 18 personnes sont mortes et 23 autres ont été blessées dans l'accident d'un car transportant des Mexicains et des migrants qui a chuté dans un ravin dans l'ouest du Mexique, ont annoncé les autorités. La majorité des passagers étaient originaires de pays comme l'Inde, la République dominicaine et du continent africain, entre autres, a précisé l'autorité, signalant que certains se dirigeaient vers Tijuana pour tenter d'entrer aux États-Unis. Présent les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Football pour commencer avec le Maroc qui a fait sensation hier au Mondial féminin.
Oui, étrié par l'Allemagne lors du premier match 6-0, les Lions de l'Atlas qui disputent la première Coupe du Monde féminine de leur histoire ont rugi d'abord lors du deuxième match contre la Corée du Sud battue 1-0, un score qu'elles ont infligé aux Colombiennes hier jeudi. Les Marocaines sont les invitées surprises des huitièmes de finale. En quart de finale mardi, elles feront face à la France. À Rabat au Maroc, un seul sentiment règne, fierté.
Oh, bravo et bravo, je peux rien dire qu'on est hyper fiers pour votre première expérience dans la Coupe du Monde. Vous arrivez jusqu'à ce niveau, bravo et bravo, bravo, chapeau, chapeau.
Je suis très heureuse de cette victoire qui a connu l'équipe nationale des femmes. On le souhaite un très bon courage contre l'équipe nationale de France.
Super bravo pour l'équipe marocaine, on est très fiers d'elle. Bravo et bonne continuation.
Allez le Maroc!
La moisson est bonne pour l'Afrique après le premier tour. Le continent place 3 équipes sur 4 en huitième de finale. Avant le Maroc, le Nigeria et l'Afrique du Sud ont arraché leur ticket pour les huitièmes. Seule la Zambie est éliminée à l'issue de la phase de groupe. Les Sud-Africaines jouent contre les Pays-Bas demain samedi 5 août et les Super Falcons défient l'Angleterre championne d'Europe en titre le 7 août. Pas de match aujourd'hui, ça joue de repos.
Basketball avec les nouvelles de l'Afro-Basket Dames qui se déroule à Kigali au Rwanda.
L'affiche de la finale qui aura lieu demain samedi à la Beka Arena est connue. Le Nigeria va affronter le Sénégal. Hier en demi-finale, le pays hôte, le Rwanda est tombé devant les Super Falcons 79-48. De son côté, le Mali s'est incliné devant le Sénégal 75-65.
Jeu de la francophonie de Kinshasa, Zango domine le triple saut.
Le médaillé de bronze olympique burkinabé a survolé hier jeudi l'épreuve du triple saut en décrochant une médaille d'or avec 17m11. Hugues Fabrice Zango avait obtenu une médaille d'or à l'édition 2017 à Abidjan.
Pour ce match, je ressens beaucoup, beaucoup de joie après avoir décroché une deuxième fois consécutive la médaille d'or des Jeux de la francophonie. Et ça fait maintenant 3 victoires d'affilée que j'enchaîne. Depuis le mois de juillet, c'était de très bon augure pour les championnats du monde qui ont lieu dans 2 semaines.
Derrière Hugues Fabrice Zango, le Sénégalais Amat Mfaye a remporté l'argent avec 16,61 mètres et l'Arménien Levron Agassian le bronze avec 16 mètres 40. Les épreuves d'athlétisme s'achèvent aujourd'hui à Kinshasa. Tous les Jeux de cette 9e édition se terminent dimanche.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La Maison-Blanche dit suivre de très près la situation au Niger depuis le coup d'État du 26 juillet, alors que l'ambassade des États-Unis se prépare à évacuer son personnel non essentiel. Des analystes affirment que Moscou et Pékin surveillent également Niamey, où les putschistes ont reçu un ultimatum de la CDAO pour rétablir avant lundi le président Mohamed Bazoum. Nathalie Barge relate ici un compte-rendu d'Anita Powell à Washington.
Cela devient un schéma familier en Afrique de l'Ouest ces trois dernières années. Un groupe d'officiers se disant mécontents de l'insécurité et de la mauvaise gouvernance qui séquestre le chef de l'État prennent le contrôle des ondes et se déclarent aux commandes. En effet, après les coups d'État au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, c'est au tour du Niger de voir son président renversé par des militaires. Le colonel Amadou Abdrahman, porte-parole de la junte, le jour du putsch.
Ce jour, 26 juillet 2023, nos forces de défense et de sécurité, réunies au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez.
Washington a déclaré surveiller de très près la situation au Niger pour voir si une diplomatie intense serait en mesure de ramener au pouvoir le président déchu Mohamed Bazoum, pour qui le département d'État a exprimé un soutien indéfectible. Le Niger est un partenaire clé des États-Unis dans la lutte contre le djihadisme au Sahel, avec une base de drones et environ 1100 soldats américains dans le pays. VOA Afrique s'est entretenu de la situation avec l'ambassadeur du Niger aux États-Unis, Mamadou Kyari Limantingiri.
Il y a au moins deux semaines, nous avions ici une équipe de nos militaires pour une rencontre avec les autorités américaines. Nous sommes allés ensemble au Pentagone. Nous sommes allés ensemble au département d'État. Et une semaine plus tard, nous nous débrouillons mal. Qu'est-ce que cela signifie? Ça n'a aucun sens du tout.
Des analystes notent que cette région fragile et riche en ressources naturelles est également dans la ligne de mire d'autres grandes puissances. L'expert en stratégie et relations internationales Sean McFate, professeur à l'Université de la Défense nationale des États-Unis.
C'est une guerre par procuration et il y a eu une guerre par procuration en cours en Afrique depuis au moins 3, 4 ou 5 ans. C'est en quelque sorte une nouvelle ruée vers l'Afrique. Mais ici, les forces extérieures sont les États-Unis, la Russie et la Chine. La Russie aime conquérir à travers le groupe Wagner. Pour la Chine, on pourrait utiliser le terme de guerre économique appelé l'initiative de la ceinture et de la route.
Le département d'État dit ne pas avoir de preuves d'implication de mercenaires russes au Niger, tout en estimant qu'ils essaieraient probablement de tirer parti de l'instabilité. Matthew Miller, porte-parole du département d'État américain.
Je ne serais pas surpris de voir les Wagner tenter d'exploiter cette situation à leur propre avantage, comme ils ont tenté d'exploiter d'autres situations en Afrique. Et quand je dis à leur avantage, je veux dire au plan financier personnel et pour étendre leur influence sur le continent.
Les États-Unis et d'autres bailleurs occidentaux ont suspendu leur aide au Niger après le coup d'État. La CDAO a donné aux putschistes un délai d'une semaine, soit jusqu'à dimanche, pour rétablir le président Mohamed Bazoum, menaçant de recourir à la force s'il ne se conformait pas à cette exigence des dirigeants ouest-africains.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
La situation humanitaire est préoccupante dans le centre du Mali, dans la région de Bandiagara. Des villages se vident de leur population sous la menace des groupes armés. Selon le maire de la commune de Balassara, plus de 2000 déplacés de la commune sont sans abri dans la ville de Bandiagara. Une situation qui affecte la campagne agricole en cours dans la région. De Bandiagara, notre correspondant Tidjani Ouedraogo.
Ces déplacements massifs de population font suite aux attaques des groupes armés dans ces localités. Comme Fatmata Kologo, beaucoup sont arrivés dans la ville de Bandiagara dans des conditions difficiles.
Nous avons fui à cause de l'insécurité dans notre village. Et c'est après 4 jours de voyage que nous sommes venus à Bandiagara ici. Il y a d'autres qui veulent venir, mais par faute de moyens, ils sont toujours restés au village. Vraiment, la situation est catastrophique.
Des rescapés, après avoir perdu tous leurs biens suite aux attaques, peinent à joindre les deux bouts. Aminata commence ici une nouvelle vie avec ses enfants dans les sites et sans abri.
J'ai fui avec mes enfants les mains vides. Nous sommes ici au site sans un sou. Je suis obligée d'aller cueillir les feuilles d'arbre pour chercher de quoi préparer pour nourrir mes enfants.
Depuis le début de la saison des pluies, la situation sécuritaire s'est détournée dans la région. De nombreux villages se vident de leur population sous la menace des groupes armés. Amadou Toulema, chef de village de Monobondo, raconte. Ils sont venus vers le petit soir, très nombreux et bien armés. Quand ils sont rentrés dans le village, ils disaient « quittez les lieux, sinon nous allons vous tuer tous ». C'est ainsi que nous avons quitté immédiatement. Mais le problème est que nous ne savons pas quelles sont leurs revendications et pourquoi ils font ça exactement. Selon le maire de la commune de Balassara, la situation risque d'avoir un impact sur la campagne agricole cette saison et lance un appel aux autorités compétentes.
Nous sommes en début d'hivernage. Les gens ont semé. Ils ont laissé derrière eux leurs semis. Et s'ils n'arrivent pas à cultiver, les paysans, ils n'ont pas d'autre activité si ce n'est pas l'agriculture. Vraiment, je lance un appel à tout le monde, à toutes les autorités compétentes pour qu'ils nous viennent en aide, pour que ces populations puissent regagner chez eux.
Sur le site à ciel ouvert, des volontaires s'activent pour venir en aide aux femmes et aux enfants. Suntura Wulegem est une infirmière.
Nous sommes ici là pour faire les prises en charge des enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes.
L'armée malienne basée dans les localités de Bandiagara, Dialassagou et Koro se déploie aussi pour rassurer les populations. Et déjà, des résultats sont enregistrés. Tidjani Ouedraogo pour VOA Afrique, Bandiagara.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Burkina Faso, pour éviter que la situation sécuritaire ne dégénère en conflit religieux, les différentes confessions dans la ville de Bobo-Dioulasso ont pris des mesures importantes. Elles ont mis en place une organisation appelée Dialogue interreligieux qui rassemble les représentants de l'Église et les hautes autorités musulmanes de la ville. L'entente entre les chefs religieux permet de favoriser un climat de respect et de tolérance entre les différentes communautés religieuses de la région. Un reportage d'Alidou Ouedraogo à Bobo-Dioulasso.
Préserver la paix est le souci premier des religieux à Bobo-Dioulasso. Pour cela, aucun sacrifice n'est de trop. Concertation entre leaders, sensibilisation dans les églises et mosquées. Ce jour, chrétiens et musulmans attendaient notre équipe au siège de la communauté musulmane de Bobo-Dioulasso et c'est Oumarou Monet de la Fédération des associations islamiques du Burkina qui prend la parole en premier.
Notre mission majeure, c'est de superviser les différents discours qui se font au niveau donc de l'Église, au niveau donc de l'Église catholique, de l'Église protestante, également dans les mosquées, les différents serments qui sont faits, quels sont les messages qui sont véhiculés. Si donc nous constatons qu'il y a des dérives ou bien des messages assez extrémistes, des messages violents, nous interpellons donc les leaders et nous échangeons avec eux, dans le sens donc de faire en sorte que le discours soit un discours rassembleur.
Une activité de sensibilisation dans le but d'éviter les amalgames ou maroumonés.
Que dans les mosquées, nous puissions sensibiliser donc les musulmans à considérer leurs frères chrétiens comme leurs frères. Et nous disons également aux frères chrétiens de faire la même chose, de dire dans les églises que les musulmans sont leurs frères, les musulmans également sont leurs voisins Et le terme djihadisme, nous avons demandé à ce qu'ils puissent clarifier ça. Beaucoup de chrétiens ne sont pas au courant de ça. Ils entendent ça dans les médias, ils ne savent pas ce que c'est. Mais si le prêtre ou bien le pasteur explique ça à ses fidèles, à l'église, ça va encore amener la paix. Parce que les gens vont comprendre qu'en réalité, ceux qui se réclament de ces djihadismes-là ne sont pas musulmans.
Pour le pasteur Khalifa Bioun de la Fédération des Églises et Missions Évangéliques, le risque d'un conflit interreligieux est bien présent et qu'il faut multiplier les efforts pour le minimiser.
Il n'y a pas de risque qu'il y ait un conflit interreligieux, ce serait menti. Mais ce qui me réjouit, c'est qu'aujourd'hui, nos responsables travaillent. Quand je parle des responsables, ce n'est pas seulement politique, mais les responsables religieux aujourd'hui travaillent pour minimiser ce risque.
Le pasteur Khalifa Bioun explique que le langage dans les églises aujourd'hui doit être spécifique.
Dans les églises aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas confondre une ethnie avec le terrorisme. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Deuxièmement, il ne faut pas confondre, faire l'amalgame entre une religion et le terrorisme. C'est deux choses différentes. Et si dans nos comportements, dans notre façon de faire, dans le langage, on arrive à faire cette différence, je dirais qu'on aurait gagné une bonne partie de cette guerre-là, si je peux le dire ainsi.
La concertation entre chrétiens et musulmans est devenue aujourd'hui un impératif de l'avis des différents responsables religieux. Alidou Ouédraogo, Bobo Dioulasso pour VOA Afrique.
Merci Alidou Ouédraogo. Reporters sans frontières annonce l'élaboration d'une charte qui devra encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les médias en vue de protéger l'intégrité de l'information, tâche confiée à une commission internationale présidée par la journaliste Philippe Maria Ressa, prix Nobel de la paix 2021. Un entretien entre Eric Manira Kidza et le secrétaire général de RSF, Christophe Deloire.
Bien sûr que l'intelligence artificielle peut être utile. En fait, toutes ces innovations, il ne faut pas les voir seulement négativement, comme il ne faut pas les voir seulement positivement. Au fond, c'est comme des outils, certains diront comme des armes. Ça peut être utilisé à bon escient ou à mauvais escient. La question, c'est bien que ce soit utilisé positivement. Et donc là, en l'occurrence, ça serve l'indépendance de l'information, ça serve son pluralisme, ça serve sa fiabilité. Et cet outil, encore une fois, il pourra être utilisé de différentes manières. L'enjeu, c'est de préciser pour un outil qui est totalement nouveau, donc qui va faire l'objet d'utilisation totalement nouvelle, de trouver quelles doivent être des règles de base qui sont au fond des règles démocratiques. Et qui correspondent à l'éthique journalistique, à ce qui permet de fonder une information lente et fiable.
Concrètement, quels sont les dangers déjà constatés, les cas concrets que vous pouvez citer par exemple?
Chacun les a vus. Alors, ces exemples sont différents en fonction des pays, mais certains ont fait le tour du monde.
Prenons l'exemple de l'Afrique.
Il est aisé dans des la désinformation peut prendre des formes multiples et on a vu qu'il y avait une industrie de la désinformation, soit à la solde d'État, soit à la solde d'entreprises privées, parfois de groupes sociaux, religieux, enfin de toutes sortes de pouvoirs. L'intelligence artificielle, elle a ceci qu'elle permet en plus de créer des fausses photos, des fausses vidéos qu'on prendrait pour du vrai, tellement la qualité de production, la qualité technique est grande, mais la qualité technique, elle peut servir à occulter la vérité et à impulser, à lancer des mensonges faramineux. Et le problème, c'est quand on regarde, on ne sait pas si ce contenu a été produit par de l'intelligence artificielle, si c'est une photo qui a été prise par un photographe. Bref, mettre un peu de principe dans tout ça.
Une charte est donc attendue. Est-ce que vous pensez que sa mise en œuvre sera facile?
À chaque étape suffisante, la première question, ça va être de produire une charte de grande qualité. Alors, on a tous les atouts de notre côté, puisque cet effort sera présidé par Maria Ressa, qui est philippine, qui est lauréate du prix Nobel de la paix, avec des très grands noms dans cette commission que nous avons constituée.
Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seloudia, de Lionel Gahima et de Zuber El Taïb. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.